Dixième lettre philosophique sur le commerce. Le commerce qui a enrichi les citoyens en Angleterre a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour. De là s'est formée la grandeur de l'État. C'est le commerce qui a établi peu à peu les forces navales par qui les Anglais sont les maîtres des mers. Ils ont à présent près de 200 vaisseaux de guerre. La postérité apprendra peut-être avec surprise qu'une petite île, qui n'a de soi-même qu'un peu de plomb, de l'étain, de la terre foulon et de la laine grossière, est devenue par son commerce assez puissante pour envoyer en 1723 trois flottes à la fois en trois extrémités du monde, l'une devant Gibraltar, conquise et conservée par ses armes, l'autre à Portobello pour ôter au roi d'Espagne la jouissance des trésors des Indes, et la troisième dans la mer Baltique pour empêcher les du Nord de se battre. Quand Louis XIV faisait trembler l'Italie et que ses armées, déjà maîtresses de la Savoie et du Piémont, étaient prêtes de prendre Turin, il fallut que le prince Eugène marchât du fond de l'Allemagne au secours du duc de Savoie. Il n'avait point d'argent, sans quoi on ne prend ni de défend des villes. Il eut à des marchands anglais. Encore une demi-heure de temps, on lui prêta 50 millions. Avec cela, il délivra Turin, battit les Français, écrivit à ceux qui avaient prêté cette somme, ce petit billet. « Messieurs, j'ai reçu votre argent et je me flatte de l'avoir employé à votre satisfaction. » Tout cela donne un juste orgueil à un marchand anglais et fait qu'il ose se comparer, non sans quelque raison, à un citoyen romain. Aussi le cadet d'un père du royaume ne dédaigne point le négoce. Millard Townsend, ministre d'État, a un frère qui se contente d'être marchand dans la cité. Dans le temps qu'Oxford gouvernait l'Angleterre, son cadet était facteur à Alep, d'où il ne voulut pas revenir et où il est mort. Cette coutume, qui pourtant commence trop à se passer, paraît monstrueuse à des Allemands entêtés de leur quartier. Il ne saurait concevoir que le fils d'un pair d'Angleterre ne soit qu'un riche et puissant bourgeois. Au lieu qu'en Allemagne, tout est prince. On a vu jusqu'à 30 altesses du même nom, n'ayant pour tout bien que des armoiries et de l'orgueil. En France, c'est marquis qui veut, et quiconque arrive à Paris du fond d'une province, avec de l'argent à dépenser et un nom en nac ou en île, peut dire à un homme comme moi, un homme de ma qualité, et méprise souverainement un négociant. Le négociant entend lui-même parler si souvent avec mépris de sa profession qu'il est assez sot pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surat et au Caire, et contribue au bonheur du monde.